Il est 20h30 à Paris, une heure de plus, à Bukavu.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, en République démocratique du Congo, face à la progression rapide des combattants du M23 appuyés par des troupes rwandaises sur le front du Sud Kivu, le président Félix Tshisekedi dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est justement au cœur de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se déroule en ce moment à Addis Abeba, la veille du sommet des chefs d'État. Dans l'actualité également, le verdict du procès, un appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam, perpétuité confirmée pour 4 accusés reconnus coupables de complicité d'assassinat et d'actes terroristes. Et on commence par la réaction du président congolais à la progression rapide des combattants du M23 et de leur soutien rwandais dans le sud Kivu. Dans la journée, des éléments du M23 étaient présents à l'aéroport de Kavumu. Et dans la soirée, une source gouvernementale ajoute que les rebelles sont désormais signalés dans la ville de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Félix Tshisekedi dénonce, lui, les velléités expansionnistes du Rwanda dans son pays. Il s'exprimait lors d'une intervention à la conférence de Munich sur la sécurité. Pour lui, il est urgent d'agir.
Aujourd'hui, nous n'attendons plus de simples mots. Nous exigeons des actions décisives. Le statu quo est une illusion. Ne rien faire, c'est déjà choisir. Et ce choix, s'il perdure, aura des répercussions bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Car si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos.
Voilà, la situation dans l'est de son pays est donc l'un des dossiers, je vous le disais, au cœur de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, réunion qui se déroule en ce moment même, en amont du sommet annuel des chefs d'État prévu ce week-end. Félix Tshisekedi sera représenté par sa première ministre, Judith Suminwa. Florence Maurice, vous êtes à Addis Abeba. Que faut-il attendre de cette réunion du CPS?
Oui, réunion en cours à huis clos. Écoutez, deux crises sont à l'agenda de ce Conseil, la guerre au Soudan et l'Est de la RDC. Et dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat n'a évoqué que le Soudan, pas un mot sur la RDC, signe sans doute de la tension qui règne alors que la situation se dégrade sur le terrain. Les autorités congolaises continuent d'espérer une condamnation explicite du Rwanda par l'Union africaine. La SADC et la CEAC pourraient plaider en ce sens, mais rien n'est gagné. Jusqu'à présent, l'UA s'est toujours gardée de mentionner explicitement le Rwanda dans ses communiqués. Selon nos informations, le projet de résolution qui est soumis ce soir à discussion consiste essentiellement à entériner au niveau du continent la position issue du sommet conjoint de Dar es Salaam. Le Rwanda n'y était pas cité. L'autre question, c'est celle du processus de médiation pour sortir de la crise. L'Union africaine pourrait acter la fusion des processus de Luanda et Nairobi et décider de confier le dossier à un panel de facilitateurs plutôt qu'à un médiateur unique. C'était donc l'une des recommandations du sommet de Dar es Salaam, d'autant que João Lourenço prend la présidence tournante de l'Union africaine et a fait savoir qu'il n'excluait pas de passer la main.
Florence Maurice, envoyée spéciale à Addis Abeba, en Côte d'Ivoire. La Cour d'appel a confirmé ce vendredi après-midi, la condamnation à perpétuité pour 4 personnes impliquées dans l'attentat terroriste survenu dans la station balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. Les 4 accusés ont été condamnés pour complicité d'assassinat et complicité d'actes terroristes. Compte rendu d'audience, Binta Diagne.
La cour d'appel a suivi les réquisitions du parquet. Elle acquitte les accusés concernant la détention d'armes de guerre, mais elle confirme les autres charges, à savoir complicité d'actes terroristes et complicité d'assassinat. La cour d'appel confirme la condamnation à une peine de prison à vie pour les quatre accusés. Il y a là un chauffeur, une personne ayant hébergé le cerveau de l'attentat et deux personnes accusées d'avoir aidé au repérage des lieux et au convoyage des armes. À l'énoncé de ce verdict, les quatre accusés étaient effondrés. « Je ne suis pas un terroriste », a crié l'un d'eux au moment de quitter le tribunal sous escorte policière. Leur avocate, Maître Térémé Diaby, estime qu'il n'a pas été prouvé que ses clients avaient connaissance du projet d'attentat fomenté par Kunta Dalla, le cerveau de cette opération, lors de leur prise de contact. La défense a l'intention de se pourvoir en cassation. Quant aux parties civiles, elles expriment leur soulagement. Maître Amadou Camara demande à l'État de se porter garant et de trouver les fonds nécessaires pour indemniser les victimes des attentats terroristes. En effet, en première instance, le tribunal avait établi entre 10 et 30 millions de francs CFA le montant des réparations à verser à chaque victime, mais ces fonds ne sont pas disponibles, déplore l'avocat des parties civiles. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Surpopulation dramatique et inhumaine dans les prisons sénégalaises, constat fait par la rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture après une visite d'une dizaine de jours dans le pays. Elle appelle les autorités à prendre d'urgence des mesures pour garantir des conditions de détention dignes. À Dakar, les précisions de Léa Lisa Westerhoff.
Des chambres extrêmement encombrées où les détenus dorment tête bêche, voire à tour de rôle dans les couloirs. Le tableau dressé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la torture est alarmant. Après s'être rendue dans 5 prisons du Sénégal, Alice Jill Edwards parle de conditions de détention inhumaines où les rations alimentaires par détenus sont quelquefois réduites pour réussir à nourrir tout le monde. La rapporteure dénonce une poudrière, je cite, qui pourrait exploser à tout moment, entraîner des émeutes, des violences ou encore la propagation rapide de maladies infectieuses. Face à ce constat, elle appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures de toute urgence pour alléger la pression sur le système pénitentiaire et garantir des conditions de détention dignes. À l'issue de sa visite au Sénégal, Alice Jill Edwards s'est aussi prononcée en faveur de l'abrogation de la loi d'amnistie, votée en mars dans les tout derniers jours du régime de Macky Sall. Ce texte de loi amnistie tous les faits survenus entre 2021 et 2024 lors des manifestations de l'opposition qui ont fait 79 morts. Les nouvelles autorités ont promis de l'abroger. Léa Lisa Westerhoff, Dakar. RFI.
En Guinée, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Nzéré Koré a publié ce matin son rapport d'enquête sur la tragédie survenue le 1er décembre dans le plus grand stade de la capitale de la région forestière. Bousculade meurtrière lors de la finale d'un tournoi de foot organisé à la gloire du président de transition, Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 3 fois plus selon le collectif des ONG qui pointe une volonté de dissimuler la vérité. Précision, Sylvian Sané.
Dans leur rapport de 44 pages, les défenseurs des droits humains de Nzéré Koré soulignent d'emblée une responsabilité de l'État à tous les niveaux, du président de la délégation spéciale au secrétariat de la présidence, en passant par les ministres, les préfets et les forces de l'ordre. Le stade était archi-comble, au-delà de ses capacités d'accueil, plus de 10 000 spectateurs pour une sécurité très insuffisante, dit le rapport. Des véhicules déployés dans la région pour transporter gratuitement les supporters, généralement mineurs, des rumeurs attestant que le célèbre artiste Grand P et le général Doumbouya lui-même seront présents, le tout pour un seul objectif, que le monde entier voit que le président Doumbouya est plébiscité, rapporte le document, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Mais les organisations déplorent surtout la totale opacité des investigations menées par le gouvernement, qui n'a jamais communiqué depuis la mise en place d'une commission d'enquête. Gouverneur, préfet, mairie, gendarmerie, police, procureur, tous se renvoient la balle. Le rapport affirme aussi que les autorités religieuses et administratives ont encouragé des familles à ne pas se faire enregistrer comme victimes, ni même communiquer sur la tragédie et de s'en remettre à Dieu.
Basket, début d'un week-end de gala aux États-Unis. Ce soir, les meilleurs jeunes du championnat s'affrontent. Yves Missi devait y participer, mais le Camerounais vient de déclarer forfait à Victor Missistrano.
Sa sélection sonnait comme une évidence et devait récompenser ses excellents débuts en NBA. Yves Missi doit finalement renoncer. Blessure sans gravité, mais cette hyper-extension du genou subie hier lors du match des Pelicans contre Sacramento prive le Camerounais du Rising Star Challenge. Il se faisait un plaisir d'y participer. À 20 ans, le rookie ou joueur dont c'est la première saison s'affirme comme l'un des tout meilleurs de sa promotion. Arrivé l'été dernier à la Nouvelle-Orléans, le pivot de 2m11, très aérien, a apporté sa dimension athlétique et a immédiatement décroché une place de titulaire. Yves Missi affiche des statistiques solides, plus de 8 points et 8 rebonds par match en moyenne. Avant sa sélection parmi les meilleurs jeunes, il s'était vu remettre le trophée de rookie du mois de décembre. Pas de All-Star Game donc, mais dès son retour au parquet, il va pouvoir se concentrer sur la fin de saison et s'il continue sur ses bonnes bases, Yves Missi pourrait devenir dans quelques mois le tout premier Africain élu rookie de l'année en NBA.
Il est 20h40 à Paris, merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.